Salut tout le monde, amateur de hockey, merci beaucoup d'être avec nous pour cet autre épisode de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa, notre deuxième édition de la semaine comme à l'habitude. Plusieurs sujets au menu aujourd'hui. Voici les panélistes pour l'émission de cet après-midi. Simon-Olivier Lorange de La Presse. Salut Simon-Olivier.
Salut Philo.
Michael Lalancette à Québec, salut Michael.
Salut.
Et Jérémy Rainville du 98.5, salut Jérémy.
Salut, Philo.
Alors, les gars, deux défaites qui se ressemblent pour le Canadien face aux Maple Leafs et face aux Jets. On a couru après le score, comme on dit, et on a tout donné dans les derniers instants du match. Malheureusement, ce sont deux défaites pour le Canadien de Montréal contre ces deux équipes-là. Encore une fois, on a vu des choses qu'on avait l'habitude de voir du Canadien dans les années passées, c'est-à-dire, par exemple, beaucoup de tirs au filet. Un avantage numérique qui a beaucoup de difficultés. Et on se retrouve malheureusement avec deux défaites dans ces deux matchs-là. Peut-être un petit commentaire, Jérémy, pour commencer.
Ben, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'il y a une similitude entre les deux matchs. Comme tu le mentionnais, c'est du côté du Canadien, on n'a pas eu trois périodes de travail. Ça n'a pas été constant. On a eu quelques difficultés. On a connu souvent une bonne période et deux bons moments en fin de rencontre. Mais il faudra trouver le moyen d'être beaucoup plus constant. Et je parle pas d'intensité parce que je sais qu'on va reparler de Brendan Gallagher là. Puis je sais que tout le monde le voit comme le guerrier, puis qui va prendre sa place. Je pense qu'il faut que ça se fasse collectivement en étant peut-être un petit peu plus attentionné à l'exécution, ce qu'on voit pas présentement chez les Canadiens. Fait que au-delà de tout ça, je pense que malgré tout, on demeure quand même passablement compétitif. Fait que donc, si on est plus constant, j'imagine que les résultats seront plus heureux pour le Canadien.
Sauf que, tu sais, dans les deux matchs, tu as eu une période où tu as complètement dominé l'adversaire, des genres de 16 à 4 à la fin d'une période, mais tu n'arrives pas à trouver le fond du filet. Et ça finit toujours par te coûter cher à la fin d'une game. Quand c'est toi qui mènes, quand c'est toi qui domine, faut que tu capitalises. Et encore une fois, ça a été un problème pour le Canadien dans ces deux matchs-là. Simon-Olivier, comment as-tu vu ces deux rencontres?
Ben, d'abord, je pense que s'il y a un correctif à apporter assez rapidement, c'est réussir la première minute d'un match. Juste passer à travers, sortir vivant de la première minute du match, ça semble être un défi par les temps qui courent. Mais quand on regarde ces fameux matchs avec de nombreux tirs au but que tu évoquais, effectivement, ça cache la même chose que par les années passées. C'est-à-dire, c'est bien beau envoyer beaucoup de rondelles au filet, mais tu sais, faut prendre les retours, faut mettre de la circulation devant le but. Et c'est pas du tout arrivé cette semaine contre les Leafs et contre les Jets. On n'était pas là pour la deuxième, la troisième occasion. Sauf exception, si on regarde le but d'Ano hier, c'est sur un retour de lancer. Fait qu'on, je veux dire, la recette, on la connaît, mais si on regarde les chiffres, en deuxième période, le Canadien a une chance de marquer des chances dites de grande qualité ou à haut danger, et contre Winnipeg et contre Toronto. On peut pas, c'est pas une finalité de juste tirer au but. Il faut réussir à capitaliser, et on n'est pas proche de là cette semaine.
Michael, là-dessus?
Ben, moi, j'aurais le goût de dire que, justement, le Canadien, on sent l'équipe vraiment pas à l'aise lorsqu'elle tire de l'arrière. Tu sais, c'est une équipe qui a de la difficulté à pourchasser. Les statistiques mentent pas entre la réalité du Canadien quand l'équipe prend les devants, quand attaque un match en force, puis quand elle se met à jouer du hockey de rattrapage. Ça, c'est la première chose. Puis le deuxième élément qui, moi, me saute aux yeux, c'est le nombre de joueurs qui, en ce moment, se cherchent, ont de la difficulté à retrouver leur repère, à retrouver leur appel. Il y a des gars qui en donnent un petit peu plus par les temps qui courent. On regarde un Paul Byron hier dans le match de jeudi soir. L'utilisation de certains joueurs ment pas. Là. Tu sais, quand Corey Perry passe 20 minutes sur la glace dans son deuxième match en deux jours, ça veut dire qu'il y a des gars qui se cherchent dans le club. Puis c'est le nombre de joueurs qui connaissent des difficultés en ce moment qui me laisse, tu sais, un peu sur mon appétit. J'aimerais ça là qu'il y en a d'autres qui prennent la relève, mais c'est comme si on les attend puis ils viennent pas. Il y a plusieurs joueurs en ce moment qui se cherchent.
Ouais, puis Paul Byron, soit dit en passant, a été placé à nouveau au ballotage aujourd'hui. Je pense que si son contrat se terminait cette année, moi, je pense qu'il trouverait preneur parce qu'il joue du quand même du bon hockey. En tout cas, c'est
mieux. On vient toujours avec le contrat. Là.
Ben, le contrat, c'est ça. C'est ça le contrat. C'est la longueur qui reste deux années de plus encore. Ouais, donc, c'est ça qui complique la donne. Maintenant, après le match...
Excuse-moi de t'interrompre rapidement. Sur Byron au ballottage, en fait, ça revient à la procédure un peu administrative qui, je pense, c'est la troisième fois cette saison qu'il est au ballottage, parce qu'on veut profiter de quelques journées où il est sur l'escouade de réserve, puis pour y arriver, on n'a pas le choix après 10 matchs ou 30 jours de le passer au ballottage. Et tu sais, on s'entend, personne ne le réclame. Les deux premières fois, personne ne l'a réclamé. personne ne va réclamer cette fois-ci. Évidemment, ça va arriver juste pour me faire mal paraître, là, mais c'est plus de la paperasse qu'un message qu'on envoie à Byron.
Oui, on comprend ça. On sait que le Canadien est dans placé dans une situation compliquée là, avec le plafond salarial. Maintenant, après le match, Dominique Ducharme m'a dit quelque chose qui m'a fait, qui m'a surpris. Quand il dit « difficile de gagner quand tu donnes trois cadeaux comme ça en début de match », je sais pas s'il visait directement et seulement le gardien, mais je trouve ça cheap en tabarouette pour un gardien qu'il garde dans tous les matchs. La première période hier, ça a été sa pire première période depuis qu'il est avec le Canadien. Il n'en a pas vraiment connu d'autres, des périodes comme ça. Et en plus, avec un club devant lui qui est jamais capable de marquer plus que deux buts. Ça fait plus que deux mois, c'est arrivé deux fois qu'ils ont marqué trois buts pour lui. Deux fois.
Philo, tu dis, je ne sais pas si c'était dirigé envers Jake Allen. Et là, tu dis d'un second souffle, mais je trouve ça cheap en tabarouette.
Ben, c'est cheap en tabarouette.
Mais clairement, c'était pas contre Jake Allen. Clairement, c'était pas contre lui.
Je sais pas. Cadeaux. Quand tu parles de cadeaux, d'habitude, c'est le gardien.
Mais attends. Sur la séquence, là, puis Simon, je te laisse aller là-dessus après. Sur la séquence, le but de Morrissey qui rentre en deuxième vague, OK? Il s'en vient. C'est le troisième homme, c'est le défenseur qui appuie l'attaque qui est là. T'as deux gars en arrière qui s'appellent Toffoli et Jonathan Drouin qui s'en viennent en repli défensif. Là, ça fait que Morrissey a le temps de prendre la rondelle, la contrôler. Tu sais, qu'est-ce qu'on disait que Keke faisait souvent, là? Il prend la rondelle, dribble une fois, deux fois, il va avec un bon lancer, boum, 18 secondes, c'est 1-0. T'arrives après ça, t'as Victor Mété qui doit prendre un gars devant le filet, puis au lieu d'utiliser l'intelligence puis prendre le bâton, parce que c'est ça qui sert à marquer des buts, lui décide de jouer au muscle et de décide d'accrocher le joueur au corps au lieu d'utiliser son bâton, boum, c'est 2-0. Tu sais, en quelque part, je pense que tout le monde le sait clairement que c'est pas le meilleur début de match de Jake Allen. C'était le premier à l'avouer après en disant c'est inacceptable. Mais clairement, son club, il a pas donné un coup de main, là. Fait que donc, de là à dire qu'on visait Jake Allen, moi, je pense pas du tout. Je pense pas que c'est le genre de Dominique Ducharme du tout.
Est-ce que c'est ça que vous avez compris, les gars?
Ben complètement. Dans le fond, c'est en fait tout ce que Jérémy vient de dire. Je pourrais même ajouter le troisième but des Jets, que Jeff Petrie s'est fait complètement déculotter par Ehlers qui rentrait comme un train sur l'aile gauche. Celui-là, je dois dire que Allen probablement aurait pu faire l'arrêt, mais moi, c'était très, très clair pour moi que c'était pas. Il jetait pas son gardien en dessous de l'autobus. Puis à preuve, Victor Mété a pas joué en troisième période. Puis après ça, Ducharme a même dit que il avait sciemment décidé de jouer à 5 défenseurs. Pour ce qui comprend Romanov étant le cinquième, pour laisser Mété sur le banc. Fait que, tu sais, depuis la blessure à Ben Chiarot, le discours officiel, c'est qu'on est très satisfait du travail de Victor Mété. Et effectivement, au cours peut-être de la dernière semaine ou des deux dernières semaines, Mété faisait un peu mieux. Mm-hmm. Mais c'est évident qu'on voit pas ce gars-là comme une option valide à moyen ou long terme. Juste voir comment il s'est fait complètement dominer physiquement par Trevor Lewis, ça montre les limites dans son jeu. Une des limites dans son jeu, parce qu'il y en a plus qu'une.
Ouais, et là, la question, Michael, c'est... dans le cas de Jake Allen, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on aurait dû lui donner deux matchs en deux soirs? C'était la première fois depuis 2018 qu'il évoluait dans deux matchs en deux soirs.
Ben oui.
Ben écoute, là, tu sais, il n'a pas paru à son meilleur, là, on s'entend dans ce match-là, sauf que en même temps, par après, il a réalisé des gros arrêts, là, tu sais, puis l'écart aurait pu s'accentuer pour ce qui est du Canadien. Il a quand même tenu son équipe dans le match un peu plus tard dans le match. Puis tu sais, lorsqu'on regarde Dominique Ducharme, juste pour revenir là-dessus, la façon qui approche les matchs, il a été plutôt quand même assez conciliant, assez patient avec ses joueurs. Tu sais, il a pas fait de sortie à l'emporte-pièce, il a pas mis personne sur le spot. Même hier, on a senti, tu sais, avec Jonathan Drouin, il marchait un petit peu sur des œufs. Alors moi, je pense que vraiment pas, c'était pas dirigé envers Jake Allen. Puis tu sais, tout le monde reconnaît que ça a pas été un grand match pour lui, mais en même temps, moi je pense que c'était quand même une bonne décision de le renvoyer dans la mêlée hier soir. N'eût été du fait que c'est vrai qu'en première période, ça a été très difficile pour lui.
Mais moi, je veux juste rajouter quelque chose. Parce que Dominique Ducharme, là, selon moi, le gars, il en aura le pompon. Là. Honnêtement, il en aura le pompon de voir des gars qui sont passagers. Ça, je pense que c'est pas mal clair. Mais mettez-vous dans la peau de Dominique Ducharme. Le gars, c'est un entraîneur recru dans la Ligue nationale. Ça fait 2 ans que t'es coach adjoint. T'es assistant entraîneur plutôt. tu peux pas arriver dans le vestiaire puis te mettre à briser des bâtons là. C'est, tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis t'es par intérim, ta crédibilité, elle est là. Oui. Là, tu vas la perdre si tu fais ça. D'un autre côté, le classement joue en faveur du Canadien. C'est qu'il y a personne qui vient chauffer les foufounes aux Canadiens. Non. Fait que donc, on sent pas le sentiment d'urgence. Les Canucks sont au repos forcé. Calgary arrive pas à gagner. Puis les Sénateurs sont pas dans la course du tout. Fait que donc, le sentiment d'urgence est pas là. Puis j'en parlais dans l'après-match hier avec Martin et Danny. J'ai l'impression qu'hier, on voyait un match de la mi-janvier, un mardi soir contre les Hurricanes à l'époque où les Hurricanes étaient tout croche, tu sais. Fait que donc, on sentait pas de sentiment d'urgence. Sauf que là, il y a des mots qui ont été dits hier, dans l'après-match, selon moi, de Dominique Ducharme, qui sont importants. Tu as souligné les trois cadeaux. Et quand on a souligné la présence interminable de Romanov et de Mété sur la patinoire, lui a dit la chose suivante. Ouais, mais il faut se rendre compte que c'est souvent arrivé quand la ligne à Suzuki était là. Fait que donc, ça, c'est une flèche directe à Nick Suzuki. C'est une flèche directe à Jonathan Drouin. Mm-hmm. Peut-être un peu moins directe à Corey Perry parce que tu t'attends pas qu'il va sauver tout le temps les meubles. Mais tu sais, pour les deux gars, c'est, regarde, trouvez le moyen de sortir, aider vos défenseurs et sortez la rondelle du territoire.
Ouais. Écoute, pour compléter sur l'histoire des gardiens, là, on sait pas quand est-ce que Price va revenir. On parle de probablement la semaine prochaine. Ceci dit, je pense que s'il y a une autre séquence de deux matchs en deux soirs, j'espère qu'on va voir Primo dans un des deux matchs.
Vendredi prochain, vendredi, samedi. Là.
Bon, fait que ça pourrait être ça. Parce que autant Jake Allen fait de l'excellent travail, mais la réalité, c'est que le Canadien ne gagne pas quand il est dans les nets. Il gagne jamais, ou pratiquement jamais. Je pense que c'est une victoire depuis plus que deux mois.
Sauf que Jake Allen, pour la première fois de la saison, tu l'as mentionné, hier, OK, c'est enfargé un peu. Il est revenu, mais habituellement, il garde les buts de façon extrêmement solide. Fait que donc, à un moment donné...
Mais il gagne pas.
Ouais, mais c'est à l'équipe aussi de marquer.
Jamais.
C'est à l'équipe de marquer aussi.
Allen a quand même connu un excellent match à Toronto. Le premier but de Matthews au début du match en contournant le filet.
Oui.
Bon, c'est sûr que Weber avait échappé Matthews, mais dans tous les cas, peut-être qu'Allen s'en voulait. Mais sinon, si Allen n'est pas là contre Toronto, le Canadien se fait écraser première période et probablement en troisième. Fait que, tu sais, moi, je verrais même pas. Je trouverais pas ça anormal que Allen garde 3, 4, 5 matchs consécutifs présentement. Mm. Dans la mesure où aujourd'hui, le Canadien est en congé complet. Ces 5 prochains matchs sont à domicile. Il y a un match lundi, entraînement mardi, on rejoue mercredi. Tu sais, je pense que Allen, avec toute l'expérience qu'il a, puis c'est pas un gardien qui a été surtaxé cette saison. Je pense qu'il peut sans désaveu pour Caden Primo.
Il va le faire. C'est pas il peut, il va être là. Ça va être ça. Exact.
Mais à un moment donné, un chat, c'est un chat. Tu gagnes jamais quand il est dans les
nets. Ouais, mais ton équipe joue pas bien. Ton équipe joue pas bien, Philo. Qu'est-ce que tu veux dire? À un moment donné,
c'est ça la réalité.
Non, mais attends. Parlons logiquement. Logiquement, là.
Mais gars, c'est une victoire en plus de deux mois.
Attends, Jérémy. Parlons logiquement. T'as un gardien de but qui fait la job, puis t'as un jeune qui va faire la job d'une couple d'années, OK? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton gardien de but d'expérience qui fait la job, puis tu dis à tes gars, jouez mieux. C'est ce qu'il fait, puis c'est ce qui va arriver, c'est tout.
OK. Bon, on va passer à un autre sujet, parce que là, bon, faut parler de Jonathan Drouin, là, t'as effleuré le sujet. Mais les gars, c'est pas normal là, ce qui se passe là, pour Jonathan Drouin. Tu sais, c'est 2 buts en 37 matchs. Présentement, au différentiel, c'est lui le pire dans l'équipe, à -5.
Ça va pas bien, hein?
-5. Non, mais écoute, c'est tu sais, dans un club qui a quand même... je pense qu'il y a 3 joueurs qui sont dans les négatifs dans l'équipe. Pendant longtemps, on disait oui, mais il joue mieux défensivement. Il a longtemps reproché son jeu défensif. Là, c'est mieux. Bon, là, ça a été compliqué dans les derniers matchs. Mais tabarouette de tabarouette. À un moment donné, là... 2 buts, je veux dire, si t'es Jonathan Drouin pis tu contribues pas offensivement parlant, je sais que je comprends qu'il y a des passes quand même, mais on a un problème. Guillaume Latendresse a dit sur nos ondes cette semaine, je serais tenté, moi, si j'étais Marc Bergevin, d'échanger Jonathan Drouin cet été pour faire de la place et signer Tatar. Parce qu'il est plus fiable, il contribue plus offensivement. Ça nous fait mal à notre Québécois en tabarouette.
OK, mais si toi, t'en parles aujourd'hui là, dans un podcast, tu penses-tu que dans une autre ville, ils vont dire c'est une bonne affaire, Drouin, 5,5 par année pour une coupe d'année encore. Ouais, vite, prenons-le. Pense pas, moi.
Non, je sais.
Bon, fait que beau essayer de. Non, il va être là. Tu sais, je veux dire, où c'est que tu veux que ça en aille?
Ouais, mais ça est tabarouette. Si c'est ça, là, la réalisation, ça veut dire qu'on est rendu au point est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 4 ans plus tard, que ça n'a pas été une bonne transaction?
C'est peut-être pas à la hauteur du salaire que le Canadien paye. C'est peut-être pas à la hauteur de cette attente-là. Mais est-ce que le salaire n'a pas faussé un peu les attentes? Peut-être aussi, là. Je sais pas, moi, les gars, ce que vous en pensez.
Non,
là,
mais... écoute, c'est un gars de qui on s'attendait beaucoup. C'est un choix de premier tour, quoi, troisième...
Troisième, oui. Ouais.
Tu sais...
Mais en fait, par rapport à Drouin, moi, je pense que c'est surtout qu'il faut... En fait, il y a deux éléments. D'une manière générale, je pense que Drouin, faut ajuster nos attentes. C'est-à-dire que ben Jonathan Drouin, ce sera pas un joueur de 80 points. Je pense que ça, t'sais, l'espèce de réveil à la Nathan McKinnon, là, il se serait arrivé si ça avait dû arriver. Jonathan Drouin, je pense que c'est un joueur qui, je pense que ça demeure un très bon joueur de hockey, qui va peut-être trouver sa stabilité autour de 50, 55 points, ce qui est pas plus mal. Est-ce que c'est trop cher à payer? Bon, là, après ça peut être un débat là-dessus. Par rapport à ce qu'il offre présentement, ben pour moi, évidemment, je veux dire, les chiffres sont là. C'est 3 points à ces 10 derniers matchs. La production n'est pas là. Cependant, si je regarde le reste de l'équipe, c'est un peu ça. Je veux dire, Drouin, hier, ne marque pas, mais il n'est pas tout seul. Là, il y a beaucoup. Josh Anderson a connu une bonne séquence de 2 matchs avec 3 buts en 2 matchs contre, je crois, les Sénateurs et les Oilers, quelque chose comme ça. Puis avant ça, c'était 2 buts à ses 17 matchs avant. Tyler Toffoli, depuis 2 matchs, non seulement n'a pas produit, mais s'est rendu responsable d'un mauvais repli dans chacun de ces matchs-là. Eric Staal, les 2 derniers matchs, a été très tranquille. On peut faire la liste présentement. Suzuki, ça marche pas très bien. À part Philippe Dano, le trio de Philippe Dano ces jours-ci, il y a pas grand-chose. Fait que je veux dire, Drouin, ça s'inscrit un peu dans l'ensemble. Et je pense que son succès va suivre celui de l'équipe. Mais oui, il n'y a pas de doute qu'effectivement, il y a un problème. Puis 12 minutes hier, Ducharme a vu ce qu'on a vu. Là.
Ben c'est ça.
C'est ça, exactement. C'est le temps que son temps de jeu reflète un peu sa performance. T'sais, à un certain moment donné, on veut de la patience. On veut le voir être plus dominant. Moi, ce qui me dérange, c'est ce sont pas les statistiques. Parce qu'on en parle même depuis le début de la saison. Puis même quand on estimait qu'il jouait de l'assez bon hockey, on disait « ouais, ces statistiques, c'est plutôt ordinaire ». Moi, ce qui me trouble un peu, ce qui me déçoit, ce qui me laisse sur mon appétit dans son cas, c'est qu'il ne se bat pas sur la glace. On le sent pas, là. On sent pas qu'il travaille comme un joueur de son talent. Puis s'il le faisait, il y aurait assurément plus de succès, que ce soit offensivement ou défensivement. Là, il perd son homme sur la glace constamment. On le sent un peu au ralenti. Et ça, quand Jonathan Drouin joue ce genre de hockey-là, il est pas efficace sur la glace. Puis moi, c'est ça qui me déçoit le plus en ce moment, outre le fait que statistiquement parlant, il produit à peu près pas. Là.
Mais non, écoute, les 6 derniers matchs, c'est 0, pas un but, pas une passe. La dernière fois qu'il a ramassé 3 points dans une game, il faut reculer au 13 janvier. Hey!
C'est quand même quelques semaines.
Mais...
Avez-vous vu la séquence où il est tombé tout seul hier?
Alors, je me souviens.
Il est en zone neutre, non. Il prend possession de la rondelle et malheureusement, j'imagine trop axé vers l'avant, sans farge dans ses lames et plante à pleine face. Ok, vraiment là, c'était une mauvaise séquence pour lui. Fait que donc, il se lève, il s'en va au banc et là, il est frustré. Je pense qu'il y a eu un arrêt de jeu là-dessus. Il est frustré et là, il rouvre la porte puis Tatar est assis au bord de la porte puis il a la main proche de la porte et là. Et là, Drouin décide de claquer la porte et pogne le gars de Tatar. Là, Tatar le regarde en voulant dire relax. Et là, Drouin s'en va dans le vestiaire. Il quitte vers le corridor qui amène au vestiaire. Tu sentais, là, ce gars-là, tu sais, Michael t'a dit, moi, je me fous un peu des statistiques. Ben, je pense que la seule personne au Québec qui s'en fout vraiment, mais vraiment pas, c'est Jonathan Drouin. Lui, c'est important pour lui. Là, ça le déstabilise, là, ce qui se passe présentement. Là.
Écoute, là, à 5,5 millions, là, OK.
Il sait aussi, là.
Je peux pas croire, là, que cette année, il n'y a pas une game où tu dis, hey, à soir, Drouin nous a traîné le club sur ses épaules.
Il y a eu quelques matchs qui étaient bons. Honnêtement, là, quand Ducharme est arrivé,
pas
là,
été bon.
Il était à la hauteur.
Il y a une game où tu dis, hey, à soir, là, il a déclassé tout le monde. C'était lui le meilleur sur la glace. Il est allé nous chercher une victoire. Pas une fois.
Je vais juste faire une remarque sur Drouin. Il a donné des entrevues cette semaine. Je pense que c'était avant le match contre les Oilers lundi, et dans laquelle il a spécifié qu'il est encore incommodé par sa blessure au poignet de l'année passée. Et c'était le jour de match. Ça a comme un peu passé dans le vide.
Il n'était pas capable de lancer de la même façon parce qu'il avait encore mal au poignet là, avec la blessure au poignet.
On n'en a pas fait grand cas, mais c'est un problème évident. L'année passée, quand il est revenu après sa convalescence, il disait qu'il n'était pas à l'aise. Cette année, il n'est pas à l'aise. Je comprends pas vraiment, est-ce qu'il est en mesure de jouer? Est-ce qu'il devrait jouer ou est-ce qu'il devrait soigner cette blessure-là? Je sais pas ce qu'il y a à faire avec cette blessure-là. J'ai pas d'expertise là-dedans, mais, je pense qu'il faut surtout falloir, ça risque d'arriver plus vraisemblablement au cours de la saison morte, mais régler ce problème-là pour de bon, parce que si présentement il joue à une main ou à une main et quart, ben tu sais Jonathan Drouin, c'est son pain puis son beurre, ses mains, c'est pas ses replis défensifs, c'est pas, fait que je veux dire, c'est, j'ai trouvé qu'on a, on avait énormément de légèreté par rapport à cette déclaration là qui est quand même importante d'un joueur qui dit je joue blessé, je suis pas bien, puis qui continue à savoir beaucoup de responsabilités. Fait que j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Est-ce qu'il va, si le Canadien a un assez bon coussin, est-ce qu'on va vouloir le reposer un peu, est-ce qu'on va changer son utilisation? Mais c'est un problème qu'il a, puis faut le régler, et pour lui et pour l'équipe.
Bon, en tout cas, si jamais c'est le cas, ça risque de prendre plus que quelques matchs de repos. C'est peut-être quelque chose auquel on va s'attaquer durant la saison morte là, pour le début de la saison prochaine. Mais c'est un bon point que tu amènes là-dessus. Maintenant, parlons de KK. Puis je vais poser encore la même question. T'sais, je regarde Tkachuk à Ottawa. Là. Combien de fois là, j'ouvre la télé à SportsCenter puis c'est lui qui a traîné le club sur ses épaules avec Studs-là aussi. Mais des fois, c'est Tkachuk. Il traîne le club sur ses épaules. Il amène une victoire aux Sénateurs et tout ça. À quand la dernière fois que KK a été le meilleur joueur sa patinoire? Tu sais, on dirait que là, c'était pas les Sénateurs, mais quand les Sénateurs jouent contre le Canadien, Tkachuk est quasiment tout le temps le meilleur joueur sur la glace.
Dans les dernières rencontres, honnêtement. Je pense que KK l'a dominé dans les derniers matchs. Voilà, définitivement. Là. Dans les deux derniers matchs, je pense qu'il l'a dominé.
Écoute, ouais, ben, ça n'a pas paru tant que ça, sa feuille de pointage. Je veux dire, hey.
Ben, peut-être que Tkachuk était juste pas là.
J'en ai planté deux à soir, là, puis garde, vous montrer, moi, c'est qui le meilleur entre les deux.
OK. Mais tu veux faire quoi? Tu veux-tu qu'on recule dans le temps? Back to the future, on retourne, puis on. Mettons un coup. Non, mais un coup, tu l'as dit, là. On fait quoi? On switch, on retourne,
j'aimerais ça,
on prend
à un moment
Tkachuk.
Donné, que quelqu'un il dise « Hey, KK, t'entrais pas une fois de temps en temps de sortir de la patinoire quand on joue contre les Sénateurs puis dire « Hey, asseoir, là, KK, c'est pour ça qu'on l'a repêché. Hein? » C'était le meilleur des deux, puis il les a mis dans sa poche à soir, il les a fait très mal pareil.
Ben, assurément, est-ce que
mais
toi...
Je pense que ça va arriver.
Ouais, mais là, c'est pas arrivé souvent, là, dans les trois premières années, mettons, là.
Non, mais il est peut-être pas là dans tu sais, écoute, moi je pense qu'il faut quand même être patient. Moi j'aime beaucoup ce qu'on voit de lui de récemment. Puis peut-être que ça va se faire sur le plus long terme, ça va arriver. Moi je suis à peu près certain de ça. Mais est-ce que Tkachuk était un meilleur choix pour le Canadien à ce moment-là? Ben là on revient tout le temps un peu à ça.
Exact,
à
exact. Ball, mais ce que j'allais dire, c'est que assurément Philo, toi tu trouves que le Canadien a fait un mauvais choix. À partir de
ben
là,
moi j'aurais pris Tkachuk depuis le début, mais
parfait.
Ça c'est une autre affaire.
Donc toi tu trouves que le Canadien aurait dû prendre Tkachuk. Maintenant, un coup qu'on sait que le Canadien n'a pas pris Tkachuk, on doit vivre avec le choix du Canadien qui n'est pas le nôtre. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas sûr que s'il y avait eu la COVID, Marc Bergevin là, on a l'impression que les objectifs ont changé à très court terme. Si on parlait du développement à moyen et long terme, OK. On peut prendre notre temps avec Kéké, mais si on était dans les mêmes circonstances aussi all-in que Bergevin est présentement, peut-être que Tkachuk aurait été un choix avant Kéké. Sauf que là, on doit composer avec, t'sais, on doit vivre avec. Puis ce gars-là, à mon avis, offre du bon hockey dernièrement, et c'est pas le hockey que tu espères, mais c'est quand même du bon hockey pour y espérer Kotkaniemi, selon moi. Là.
Ouais,
tu le vois en contrôle, il prend des lancers, puis tu sais...
J'aimerais ça faire une remarque là-dessus. D'abord, tu sais, c'est pas du tout le même type de joueur.
Ah ben non.
Puis ça va être, c'était vrai à leur repêchage, ça va être vrai à leur party de retraite. C'est pas du tout le même profil de joueur.
C'est sûr.
Fait que tu sais, c'est sûr que Tkachuk a un style de jeu qui amène plus d'émotion. C'est un gars qui frappe, c'est un gars qui jette les gants, c'est un gars qui tire de partout. C'est, tu sais, il apporte ça. Fait que je veux dire. Tu sais, même si on pleurait toute notre vie parce qu'on trouve que Brady Tkachuk est un meilleur joueur que Jesperi Kotkaniemi, ben ça va être vrai. Par ailleurs, moi je suis pas un défenseur de tu sais contre vents et marées de Kotkaniemi. Tu sais, jusqu'à un certain point, c'est pas mon problème si le Canadien le repêcher ou pas. Mais tu sais, par rapport, si on veut faire les comparatifs avec Tkachuk, ce qu'on est en train de faire, Kotkaniemi a presque un an de moins que Brady Tkachuk, ce qui n'est pas négligeable à leur âge. Ensuite, si on regarde cette saison, Brady Tkachuk a 24 points en 41 matchs en jouant toutes les grosses minutes de son équipe, alors que Kotkaniemi a 19 points en 39 matchs en jouant sur le troisième trio et en ayant eu des alliés aussi prolifiques que Arturi Lehkonen et Paul Byron récemment. Fait que tu sais, on va-tu débattre toute notre vie pour 5 points au cours d'une saison, alors que Kotkaniemi va plutôt bien par les temps qui courent. Moi, en ce qui me concerne, hier, superbe pas sur le but de Tatar, il apprivoise un nouveau rôle à l'aile droite. Tu sais, moi, si je veux dire, je pense que parmi les nombreux problèmes du Canadien par les temps qui courent, je vois pas du tout le nom de Kotkaniemi là-dedans.
Okay. Bon, ben moi, je t'applaudis, Simon-Olivier, je vote pour toi. Bravo!
J'ai manqué le but de Tatar hier, moi, j'ai pas vu de but de Tatar.
Excusez-moi, c'est le but de Dano, c'est ça.
Okay. Bon, Tatar, fait que bravo, mais un petit peu moins. j'ai hâte, là, à la soirée, là, où je vais, à la fin de la game, je vais dire, hey, y'a-tu été écœurant à soir, il a été sa première étoile, sans l'ombre d'un doute.
Ça arrivera peut-être jamais. Ça arrivera ouais, peut-être jamais.
Si, là, ça mais arrivera là, jamais. Tes...
Non, mais
t'es
j'écoute.
Un choix de t'es un choix de troisième hey,
j'écoute
overall,
tes attentes, toi, là.
Jamais.
Tu veux avoir Ovechkin, Crosby mélangés ensemble bizarre, avec le Canadien. Bizarre. On se calme, hey, le pompon.
Il y a juste à Montréal, on draft des gars d'un top 3. Oh, on s'attend jamais. Hey. On s'attend jamais à ce qu'ils soient les meilleurs sur la glace. On n'a aucune attente, c'est correct. Regarde, il a fait une belle
passe. Venez m'aider, les gars. Venez m'aider, je suis capable. Venez m'aider.
Mais ça, hey, on oublie les attentes qu'on avait en.
Arrête, c'est un jeu collectif. On se pourrait être bon collectivement.
Ben, quand, bon, ah, ben, collectif,
attends pas, je traverse l'autre bord,
toi. C'est bien. Ensemble.
Bon, en parlant de gars qui sera pas dans le collectif, Brendan Gallagher, ça a été confirmé, ça va être 6 semaines, approximativement, là, d'absence dans son cas. Donc, on peut l'oublier pour le reste de la saison régulière. Et ça, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est quand même une nouvelle qui va permettre aux Canadiens d'économiser un peu d'argent sur la masse salariale. D'ailleurs, il y avait un article dans The Athletic cette semaine qui nous expliquait comment le Canadien pouvait procéder. C'est sûr que dans l'alignement, c'est pas un gars qui se remplace en claquant des doigts. On en a parlé un petit peu plus tôt. Mais je me demande si ça change un peu la donne pour lundi, pour la date limite des transactions.
Moi, je ne sais pas, et je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter, jamais je ne serai un directeur général de la Ligue nationale de hockey, fait que donc je peux dire à peu près n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rajouter des couches de « on va aller chercher lui, ça va nous aider, on va aller chercher lui, ça va nous aider ». Je t'ai parlé de jeu collectif, je pense que là, il y a des gars qui doivent se prendre en main. Si exemple, je sais pas moi, si Drouin, si Suzuki, si Toffoli, si Anderson, si Byron, si Lekkonen joue du meilleur hockey, je pense que ce club-là est meilleur et encore plus compétitif. Fait que de rajouter puis rajouter juste pour dire, hey, ça va leur donner un coup de main. Je pense qu'il y a des gars qui doivent prendre la responsabilité présentement chez les Canadiens. Ça, c'est mon point de vue.
OK. Je suis assez d'accord, mais moi, je dirais qu'ils ont besoin quand même de renfort défensivement. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais sinon, avec un astérisk dans le sens, ils ont besoin d'un deuxième souffle, d'une ressource de plus, tu sais, parce que tu regardes... Là,
Sherrod va arriver dans pas long, Mick.
Oui, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres blessures. Puis tu sais, en ce moment, Jeff Petrie a des difficultés. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un deuxième souffle, d'un troisième souffle, disons ça comme ça, à la ligne bleue. C'est un besoin criant, je pense, pour le Canadien, si l'équipe veut faire vraiment des dégâts dans les séries éliminatoires.
Les gars, je m'attendais cette semaine. Oui, vas-y, Simon Olivier, je te laisse compléter.
Ah ben, en fait, ça va être super rapide dans mesure où je suis 100% d'accord avec Michael, mais aussi j'ajouterais que, tu sais, même si Sherrod revient, ben le septième défenseur, c'est encore Victor Mété. Alors, à l'approche des séries, je pense que, tu sais, je sais que notamment le New Jersey a 2 ou 3 défenseurs, des vétérans, il y a Vatanen, il y a Kulikov, je pense que c'est ceux qui étaient évoqués par The Athletic dans l'article que tu évoquais, Jérémy. Mm-hmm. Je pense que ce serait des vétérans qui coûtent pas cher et qui, même s'ils étaient utilisés dans un rôle très secondaire, très effacé ou presque en jouant presque pas, offriraient une meilleure paix d'esprit à Dominique Ducharme et au groupe d'entraîneurs.
OK, en parlant de justement de faire entrer et sortir des joueurs de l'alignement, je m'attendais cette semaine avec... C'était la première semaine là, des fameux 4 matchs dans la même semaine. Et on va avoir ça pendant encore 4 semaines consécutives. Je m'attendais à voir certaines rotations. Tu sais, là, on a commencé à voir hier avec Perry 20 minutes. On a vu que les gars un petit peu plus vieillissants, ça a été plus compliqué. 2 matchs en 2 soirs, beaucoup de matchs en peu de jours. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu vraiment de gars qui disaient, hey, ce soir, regarde, prends une pause, on va faire rentrer un autre. J'ai pas l'impression que sur le long terme, on va être capable de tenir cette façon de faire-là.
Mais je sais pas, t'as-tu le Taxi Squad devant les yeux? Moi, je l'ai pas, mais à part Frolic, là, qui est là, qui peut venir donner un coup de main, et on l'a vu, ça a pas nécessairement été extrêmement heureux lorsqu'il a fait ça. Il y a pas tant d'options que ça. Je veux dire, il y a 4 trios qui peuvent te donner un coup de main. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ça va passer par les 4 trios qui doivent jouer du meilleur hockey. Puis arrêter de regarder Eric Staal en pensant qu'il va vous sauver.
Mais non,
et
c'est ça.
Regarder Corey Perry en disant, mon Dieu, il est agressif. Il marque des buts. Non, mais faites ouais, mais, ta job.
C'est
tout,
ça. Là. Mais là, on demande plus que 20 minutes de jeu. C'est sûr que ça n'a aucun sens. Efficace, là.
Ben non, mais c'est ça. Ça n'a aucun sens, c'est sûr.
Ben, faut savoir aussi que là, sur le plan salarial, c'est bizarre à dire, mais la blessure à Gallagher, c'est une bonne nouvelle sur le plan salarial. C'est, ouais. C'est pas une bonne nouvelle sur aucune autre sphère, mais sur ce plan-là, c'en est une. Fait que là, pour la première fois, donc depuis mercredi, le Canadien pourrait procéder à des rappels
ouais.
et combler ses lacunes. Parce que là, présentement, le Canadien est tellement serré sous le plafond salarial que Caden Primo et Jake Evans, qui sont deux très bas salariés, sont sur des rappels d'urgence, dans le sens où c'est juste parce qu'on n'a pas assez de joueurs à faire jouer en haut, entre guillemets, fait qu'il y a une espèce de dérogation, ils peuvent jouer. Là, présentement, il y a un peu de marge de manœuvre, mais comme le disait Jérémy, c'est quoi les options? Effectivement, Mikael Frolik, c'est un gars qui va être confiné au mieux un troisième trio. Puis, tu sais, Laval va bien, mais après ça, c'est qui les joueurs qui performent bien à Laval? Tu sais, Lucas Vegedemo, c'est un gars qui performe bien.
Non, attends, Teasdale pourra faire la job, ça, c'est sûr et certain, tu sais.
Du jour au lendemain, tu sais, Teasdale...
Non, mais moi, je l'essaierais juste pour l'énergie, là, le beginner's luck, pour aller chercher de l'énergie.
Le choix évident, c'est Ryan Poehling.
Oui.
Sauf qu'encore là, tu sais, Ryan Poehling, c'est un, même si ça va très bien pour lui dans la Ligue américaine présentement, ça va pas être un électrochoc pour le Canadien, tu sais. Fait que je me dis, rendu là, le fait de pas faire jouer Lekkonen ou Byron un soir pour faire rentrer Ryan Poehling, ben, oui, une rotation, mais ouais. Après ça, est-ce que ça va être drastiquement différent? Je serais surpris.
Mais même une rotation avec Frolik, moi, ça me dérangerait pas une fois de temps en temps de laisser un Stahl de côté ou quoi que ce soit.
Arrête. Ben non, mais. Frolik avance pas.
Ben non, je comprends. Mais.
Stahl avance pas, puis Frolik est encore en arrière de lui.
Mais. La problématique, Jeff, c'est
que... C'est méchant, ça. Excusez-moi, Jeff, j'ai pas dit ça.
Tu continues à jouer des matchs de même, là. Plus que ça va avancer, plus que les jambes vont être molles, plus qu'ils vont être fatigués. C'est sur le long terme, ça tient pas la route. Et en parlant de rappel, ben c'est ce soir le premier match de Cole Caulfield avec le Rocket. Et d'ailleurs, RDS ont ajouté ce match à leur grille horaire, donc on va pouvoir le regarder à l'œuvre. D'ailleurs, je vais avoir Stéphane Leroux à l'émission samedi aux amateurs de sport week-end qui va pouvoir analyser sa performance et tout ça. Mais écoute, je pense pas que le but, c'est de le faire jouer un match puis de le rappeler. Mais déjà, il y a du monde qui réclame son arrivée.
En tout cas, si on se questionne à savoir s'il manque quelqu'un à droite, c'est un droitier, Cole Caulfield. Juste dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, moi, il va y avoir un gros engouement en fin de semaine. J'ai hâte de voir les premières sorties, ses premiers matchs, comment ça va aller. Puis ouais. ça peut débouler vite, ça.
Ah mais il va tellement se faire chercher sa glace là. Moi je suis content que Joël Bouchard l'ait promis contre le club école de Calgary parce que premièrement il y a une coupe de matamor là-dedans puis on était dans une séquence de matchs consécutivement où il y a eu du brasse camarade. Puis je vous rappelle la Ligue américaine là et ça arrache des têtes, ça frappe, ouais. ça frappe en fou. Ça frappe souvent. Fait que donc on se croise les doigts en espérant qu'il soit pas trop ciblé sur la patinoire puis j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller.
Ça risque d'être correct contre les Marlies là, c'est pas le même genre d'équipe. Là,
ouais,
donc,
clairement, mais.
Ouais. Non, mais écoute, à un moment donné, il faut que ça commence.
Et quand t'as un gars avec de la publicité comme ça qui s'amène dans la Ligue américaine, écoute, là, RDS met le match de façon spéciale pour montrer Caulfield. On l'a montré jouer avec les Badgers du Wisconsin. Ouais. Écoute, on n'est pas tout seul qui sait comment ça se passe. Là, l'autre club le sait aussi. Là.
OK. Bon, ben, les gars, on s'arrête là-dessus. On fait une petite pause au retour de ceci, les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Nous voilà de retour et voici maintenant nos trois sujets pour ce qui est de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. On va parler un petit peu d'Alex Ovechkin, aussi des transactions effectuées par les Islanders et la situation des Canucks. Alex Ovechkin, hier, on dirait que lui, à chaque semaine, il accroche un nouveau record ou en tout cas, il avance d'un échelon. Hier, il est allé chercher le rang du deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale en avantage numérique avec son 266e but. Un de mieux que Brett Hull. Les gars, il n'est plus qu'à 8 buts du record de tous les temps pour ce qui est des marqueurs dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est Dave Andrychuk qui a ce record. On va se le dire, là, il va fracasser ce record-là assez facilement. Là, ça devrait être d'ici la saison prochaine, fort probablement. Et Ovechkin n'a pas fini. Là. Je veux dire, il va jouer encore. Là. Donc, ce record-là, imaginez à quel point, où est-ce qu'il va l'amener avant de prendre sa retraite? Il va être seul en haut. Là. Tu sais, Andrychuk va être 30-40 buts en arrière de lui quand il va avoir fini. Est-ce que c'est le meilleur joueur en avantage numérique de l'histoire de la Ligue nationale?
Ben là, je pense qu'on a une réponse. Eh oui, clairement, ce gars-là a un lancé sur réception. Écoute, ça n'a aucun bon sens.
Moi, je pense que si j'étais le goaler, je me placerais juste en ligne vers lui.
Puis même si tu fais ça, ça se peut qu'il te batte quand même. Parce que chaque équipe le sait, puis on triche de son côté.
Oui, c'est ça.
Mais... Il est trop fort. Il est trop fort pour la Ligue. Il est gros, il est grand, il est fort. Il a un lancé sur réception magique. Ce gars-là, il a un talent ultime. Puis oui, selon moi, c'est le meilleur des meilleurs en avantage numérique.
Simon-Olivier, est-ce que tu sais... Avant d'en parler aujourd'hui, avais-tu réalisé qu'il était déjà si près que ça et que le record était à sa portée, peut-être même dans...
Ben, moi, en fait, je suis obsédé par le nombre de buts d'Alexander Ovechkin, mais pas en avantage numérique. Je dois dire que je l'ai appris aujourd'hui qu'il était justement sur les rangs pour ce record-là. Ouais. Moi, c'est le record de Wayne Gretzky que je lui souhaite. C'est sûr que là, la pandémie et tout ce qui arrive, ça lui a fait... Avec moins de matchs disponibles, peut-être que c'est moins possible, mais... Moi, ce que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens à Ovechkin, c'est son rythme de marqué pour un gars qui a commencé à jouer en 2005. Mm. Tu sais, on parlait d'Andrew Chuck, on parle de Brett Hull, c'est tous des gars qui ont joué les années 80, les années 90, alors que, tu sais, un tir de la ligne rouge ou de la ligne bleue, un peu hors l'aile des années 80, c'est une très bonne occasion de marquer. Tu sais, ça enlève rien à ces joueurs-là. Chaque joueur appartient à son époque, mais Ovechkin marque à un rythme de il y a 20 ans contre des gardiens d'aujourd'hui, des défenseurs d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est complètement hallucinant. Et je veux dire, peut-être qu'il se rendra pas à Gretzky, mais assurément, il va atteindre les 800 buts de Gordie Howe. Et pour moi, je veux dire, moi, à mes yeux, c'est le plus grand marqueur de tous les temps. Un pur marqueur de buts, un attaquant de puissance. Chaque année qui passe, tu sais, il rajeunit pas, Ovechkin, là. Mm. Mais son style de jeu change pas. Je continue d'être complètement subjugué par les performances de ce gars-là.
Je suis très d'accord avec toi avant de laisser la parole à Michael, parce que quand tu regardes, par exemple, la statistique là, des meilleurs marqueurs en avantage numérique, là, tu parlais de Hall et tout ça, Andrew Chuck, des gars qui ont joué dans les années 80-90, Teemu Selänne. Écoute, le deuxième là qui joue encore aujourd'hui, là, il est 32e, c'est Patrick Marleau. Je veux dire, dans le top 30, là, il est tout seul dans les joueurs actifs de la Ligue nationale. C'est incroyable, Michael, là-dessus.
Ouais, puis ce qui est fascinant, c'est, tu sais, on regarde le nombre de matchs que ça lui a pris pour atteindre ça, puis c'est avantageusement là, il se démarque vraiment de tous les joueurs. Donc,
il a joué 500 matchs de moins qu'Andrew Chuck. 500.
C'est ça, c'est hallucinant là. Fait que c'est impressionnant. Puis tu sais, 9 gars sur 10 avec un bon lancer qui réussirait à marquer des buts de la façon que Ovechkin le fait depuis le début de sa carrière aurait fini par être contré. Tu sais, aurait fini par les équipes s'ajustent et tout ça, parce qu'on sait justement comment il se positionne, c'est quoi les patterns dans son jeu. Puis lui a continué à marquer des buts quand même. Puis donc c'est vraiment impressionnant. Puis en plus, il porte bien son âge. Il a l'air encore frais comme une rose malgré tout. Donc non, écoute, c'est vraiment impressionnant. Une force de la nature.
Ça, c'est pas quelques cheveux blancs qui fait en sorte que t'as de l'air vieux.
Ben non,
bon.
juste pour vous dire là, Wayne Gretzky, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de tous les temps de la Ligue nationale de hockey, est 17e au chapitre des buts marqués en avantage numérique. Il y en a 204. Ovechkin en a 267.
Il avait une petite capacité à passer à rondelle, par contre, Gretzky. Oui. Il y avait des gars qui étaient capables de la mettre
c'est
dedans.
Sûr.
On n'en parle
c'est
pas
sûr.
Assez.
C'est sûr.
En
effet. Mais moi aussi, ça me passionne, ce sujet-là. Ça me fait penser un peu à ça va être comme quand Hank Aaron a dépassé Babe Ruth, selon moi. En termes de toute proportion gardée là, dans leur sport, là, ça va être ça quand Ovechkin va dépasser... Wayne Gretzky.
OK, pas quand Barry Bonds a dépassé un Karen, non?
Ah, ouais, ça, non, ça, c'était moins bon. Pour toutes les raisons qu'on connaît. Les Islanders, les gars, sont sérieux. Ils ont ajouté cette semaine Cal Palmieri et Travis Zajac. Ils ont donné des choix au repêchage. Les Islanders ne sont plus la petite équipe de New York à côté des Rangers qui ne faisait qu'exister, puis pendant des décennies on s'est demandé s'ils allaient déménager tellement c'était moribond leur affaire. Depuis que Barry Trotz est là, on les prend au sérieux plus que jamais. L'organisation aussi semble plus sérieuse que jamais. On va avoir un nouvel amphithéâtre sous peu. Ils veulent essayer de gagner la Coupe Stanley. C'est assez clair. Là, ils ont lancé un message. C'est eux autres qui ont lancé les hostilités. Je pense pas que c'est le Canadien avec Stahl. C'est vraiment eux là dans leur division là.
Et surtout, ce qu'il faut mentionner, puis tu l'as dit rapidement, ils auront un nouvel amphithéâtre. Ça veut dire qu'il faut que tu performes, il faut que les gens embarquent, il faut qu'on soit capable d'être accrocheur pour la prochaine saison quand les partisans seront là en quantité industrielle, soit-on-le. Et bon, est-ce que Palmieri et Zajac vont faire la différence dans ce club bourré de talent qui n'arrive pas à avoir du succès en série de fin de saison?
Mais ça t'amène de la profondeur, c'est incroyable.
Définitivement,
là.
Définitivement. Sauf que Lou Lamoriello est allé chercher Palmieri barbu pour le faire débarber. Donc maintenant, c'est fini la barbe avec les Islanders. Parce que c'est un règlement de Lou Lamoriello.
Il n'y avait pas un logo avec une barbe, eux autres, à un moment donné, ils sont bien effrontés.
Ah oui, avec le capitaine Islander. Oui, définitivement. Mais il n'était pas là, Lou, à l'époque.
Parfait.
Parce que n'aurait pas de barbe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choix au repêchage sont passés par là. Les premiers choix, honnêtement, sont mieux de gagner. Parce que sinon, ça va être longtemps. Là.
Ouais.
Mais ils sont mieux de gagner.
Ouais.
Ils sont rendus là.
En tout cas, moi, il m'impressionne. C'est une belle équipe à aller à suivre. Est-ce qu'ils sont des pretenders, excusez comme on dit l'expression, Simon Olivier, est-ce qu'ils sont des vrais prétendants à la Coupe?
Je pense que oui, en fait. Peut-être plus l'année passée. En fait, ce qui est très dommage pour eux, c'est la perte d'Endersley cette saison pour le reste de l'année, qui est leur capitaine, leur marqueur. Mais tu sais, on parle souvent du fameux concept d'équipe au hockey, et on a vu cette saison John Tortorella en parler avant de détruire son équipe à petit feu en étant un gars qui antagonise tout le monde. Barry Trotz est un coach, moi je pense, qui n'a pas le mérite, qui n'a pas tout le mérite qui lui revient de réussir à prendre ce groupe-là. Tu sais, oui, évidemment, il y a Matt Barzal, mais tu sais, sinon, c'est pas un groupe de super vedettes. Tu sais, une belle ligne de centre avec Barzal, Brock Nelson et Jean-Gabriel Pageau, mais tu sais, c'est pas Connor McDavid, c'est pas Austin Matthews. En défense, c'est pas, tu sais, c'est ça, c'est vraiment pas, si on regarde juste sur papier, c'est pas une formation qui nous jette à terre. Mais crime, ça marche, on marque des buts, on est efficace en défense, et là, on amène des gars, Cal Palmieri qui vient en plus de Long Island, on amène Travis Zajac, un bon vétéran. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on se positionne vraiment pour être une équipe extrêmement performante cette année en série. Puis c'est comme, on dirait qu'on s'intéresse peu aux Islanders. Ils ont été bons toute la saison et on parlait très peu d'eux. Mais c'est une équipe qui a juste, qui est 26-10-4 dans une division pas facile avec les Capitals, les Bruins, les Pingouins. Puis en tout cas, je parierais pas contre eux en série.
Non, puis Barry Trotz, je pense que tu sais, il a mis son empreinte depuis qu'il est parti des Capitals. Il est arrivé là, puis des fois, ça prend quelques années, mais là, on voit que le jello prend véritablement. Un petit mot là-dessus, Michael, sinon on passe au prochain sujet.
Oui, mais non, dire qu'ils sont avantageusement bien positionnés au classement. Puis c'est une équipe que, ben, comme vous l'avez mentionné, tu sais, le système. Moi, j'aime ce qu'on voit de deux sur la patinoire. Tu regardes l'alignement, bon, ils ont un bon club de hockey sous la main, mais tu sens l'unité de groupe. Quand tu regardes leurs matchs, quand tu les regardes jouer, tu sens une belle cohésion au sein de l'équipe. Puis je pense que pour les séries, c'est le genre d'équipe qui peut justement connaître un bon parcours.
Bon, dernier sujet. On devait pas parler des Canucks de Vancouver parce qu'on en a parlé quand même dans le dernier balado. Mais là, on entend des rumeurs à l'effet que si les Canucks ne peuvent pas reprendre le jeu, et c'est pas impossible, là, écoutez, il reste 4 semaines à la saison régulière et les Canucks, bon, il y a eu plusieurs cas. Je sais pas s'il y a des gars qui vont être capables de reprendre le jeu, à quel point ils vont être obligés de rappeler des gars des ligues mineures et tout ça, mais si les Canucks ne reprennent pas le jeu, certains disent que la Ligue nationale songe éliminer complètement les matchs qui ont été disputés dans le passé contre les Canucks. Donc, dans le cas du Canadien, par exemple, c'est une récolte de... Combien qu'on avait figuré?
12 points. Attends, on a le calcul ici. Là, 12 points que le Canadien était déjà allé chercher face aux Canucks de Vancouver.
Sur 14.
Oui, puis Calgary, c'est 8 points face à Vancouver.
Bon, ce qu'on a calculé, Jérémy, c'est que si on retirait les matchs que les Canucks ont joués dans le passé, ça changerait pas grand-chose au classement là en termes des pourcentages de victoires. Mais ça me semble assez particulier de dire « Ah ben là, ces games-là comptent pas, puis on replace tout le monde. »
Écoute, dans un calcul mathématique, ça revient sensiblement à la même chose. Si on enlève les matchs, les victoires, les matchs joués contre les Canucks, je parle pour le Canadien, on vient à un pourcentage de points, parce que veux pas, on devrait être là-dedans, à 516 en pourcentage de points, puis les Flames de Calgary se retrouveraient à 397.
Donc, il y a quand même un bel écart.
Tu sais, ça demeure un écart. La seule chose que je trouve complètement illogique avec tout ça, c'est qu'il y a des buts qui ont été marqués, il y a des statistiques qui ont été faites. Tu ne peux pas annuler des statistiques sur des matchs qui ont déjà été joués. Je peux comprendre les points de classement, sauf que là, si t'enlèves des points de classement, ça invalide les matchs que t'as déjà calculé les statistiques. Fait que donc, pour moi,
la seule raison pourquoi je verrais ça, c'est que certaines équipes diraient, ben nous, on n'a pas eu la chance de les affronter. On devait jouer encore, je sais pas moi, 4 matchs contre eux. C'est une équipe plus faible. Les autres équipes ont eu la chance de les battre, pas nous. Mais en bout de ligne,
ont battu à peu près tous les clubs dans la division Nord aussi. Ouais, là, juste dire, là, c'est quand même pas les Thrashers d'Atlanta.
C'est une saison difficile, mais Simon Olivier et Michael, ensuite, vous en pensez quoi de cette façon de penser?
Ben, moi, ça me semble complètement farfelu. Là. Je vois pas, je sais pas d'où origine cette rumeur-là, mais je vois aucune chance que ça arrive. Je veux dire, le Canadien, vous avez dit 12 points, je pense pas que c'est 12 points, je pense que c'est plutôt une quinzaine de points sur une possibilité, je pense, de 19 ou de 18 plutôt. Puis tu sais, pas juste ça, on s'en parlait avant le début de l'émission. Ben Charrot se blesse contre les Canucks. Fait que là, tout à coup, est-ce qu'on efface sa blessure? Ça me semble complètement, mais complètement
tu peux revenir. La game compte pas. Tu peux revenir,
Ben. Ouais, c'est ça. T'es correct, Ben. Tu peux revenir. Non, c'est pour vrai. On en a déjà discuté. Je sais pas si les Canucks vont finir leur saison ou si on va finalement décider d'y aller au pourcentage de points. Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'on effacera pas le passé.
Michael, là-dessus?
Ah, j'y crois pas trop non plus. Moi, sincèrement, à moins là de revirement de situation, puis qu'il se passe d'autres choses avec d'autres équipes au Canada, puis là qu'on se mette à essayer de trouver une nouvelle formule qui accommoderait peut-être tout le monde. Moi, je vois pas comment on peut se lancer dans une opération comme celle-là. C'est déjà là qu'y aller par pourcentage de points, on change quelque chose dans la façon de procéder, que là, ouais, tu sais, si on se met à enlever des matchs contre les équipes et tout ça, moi j'y crois plus ou moins, mais tu sais, depuis un an là, il se passe bien des affaires qu'on n'aurait jamais imaginées puis qui sont bel et bien arrivées, alors, on verra.
La Ligue nationale est très chanceuse que ça se passe dans une division où c'est pratiquement déjà réglé, les quatre équipes qui vont faire les matchs éliminatoires, parce que si c'était dans une autre division, ce serait beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-ci, malheureusement là, les cartes sont déjà jouées et ça changerait pas grand-chose. On verra ce que la Ligue va décider. De toute façon, l'organisation a rencontré les médias aujourd'hui pour la première fois et on essaie de remédier. On dit que la majorité des joueurs se sentent déjà un peu mieux. On fait une petite pause et au retour de ceci, les questions du public. Alors, nous voilà de retour maintenant avec les questions du public. Je vous en pose une chacune, messieurs. Jérémy, je vais commencer avec toi. Mm-hmm. Jean-Sébastien Houle, l'ajout d'un joueur à la date limite des transactions est-il vraiment garant de succès? Est-ce que le fait que le calendrier soit plus court cette année change quelque chose?
Garantie de succès, la réponse est non. Même en temps normal, même si on n'est pas en période de pandémie, jamais une transaction est garantie de succès d'un club. Maintenant, le calendrier chargé fait en sorte qu'avec la quarantaine, tu perds des matchs avec le joueur que tu es allé chercher. Maintenant, si on fait référence aux Canadiens, est-ce qu'on voudra, puis je pense que vous en avez parlé, ajouter un peu de profondeur en défensive, c'est possible. Mais encore là, on doit jouer avec la masse salariale, pensez à ça, là. Et on doit trouver le Marc Bergevin veut souvent avoir un bon fit psychologique avec la gang, ça fit dedans, que c'est le même état d'esprit. Fait que, écoute, je le sais pas, mais clairement, le calendrier chargé du Canadien ne favorise pas nécessairement une transaction. Malgré que ça se peut qu'il bouge, puis encore là, je suis pas DG dans la Ligue nationale, mais ça se peut qu'il bouge quand même. Mais selon moi, ça va être très difficile.
Peut-être une équipe canadienne, on verra. Question maintenant pour Simon-Olivier Larange. La question vient de Yannick Beaudoin qui nous demande, est-il temps de passer à autre chose dans le cas de Victor Mété et essayer quelqu'un qui évolue présentement à Laval?
La partie sur Laval, c'est un peu embêtant dans la mesure où, à l'heure où on se parle, le Canadien, dans son organisation en général, a beaucoup de défenseurs gauchers, mais pas à Laval. Tu sais, on attend Jordan Harris, on attend Strouble, on attend tout de suite, j'ai un blanc complet du joueur suédois qui
Norlinder, va revenir.
Merci beaucoup, Norlinder. Fait que c'est tous des joueurs qu'on attend, mais tu sais, si on regarde à Laval, il y a pas beaucoup d'options, tu sais. Il y a Kyle Fleury qui est un droitier, mais tu sais, je pense pas qu'il soit prêt à faire une différence dans la Ligue nationale. Il y a Gustav Olofsson, ok, ça peut être intéressant. Xavier Ouellet, moi, en ce qui me concerne, c'est pas une grande amélioration par rapport à Mété. Fait que les options à Laval sont pas énormes. Est-ce que c'est le temps de passer à d'autres choses? Dans une perspective à long terme, Mété a juste 22 ans, il est agent libre avec restriction cet été. Je pense pas que Mété est parti nécessairement, mais demain matin, je pense qu'il faudrait pour le Canadien, je sais pas si on peut appeler ça passer à autre chose, mais on l'a évoqué aujourd'hui dans le podcast, trouver du renfort ailleurs, aller chercher peut-être un défenseur à bas prix, un vétéran pour finir la saison. Mais je pense pas que Victor Mété, à l'heure où on se parle, est un gars qui a une place dans le top 6 du Canadien.
Bon, Michael, maintenant la question de Rio 9945. qu'est-ce que le Canadien...
Quoi le prénom là-dedans, c'est Rio?
Écoute, il y avait un autre nom, mais c'était tellement compliqué que je l'ai... j'ai décidé de sauter par-dessus. Bon, est-ce que le Canadien va arrêter de prendre Weber pour un dieu et admettre que c'est un papy maintenant? Leur défenseur numéro un, c'est Petrie. Il doit jouer avec Edmundson et non Kulak. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben écoute, depuis le début de la saison, de toute façon, puis je regarde depuis un mois et demi, Jeff Petrie est le défenseur le plus utilisé du Canadien devant Shea Weber. On a parlé des performances de ces deux joueurs-là depuis le début de la saison. Petrie a un excellent début de saison. Dans le cas de Weber, ça a été plus compliqué. Tu sais, moi, le dieu, bon, ça, c'est-tu une question orientée par toi, ça, Philo?
Pas en tout.
J'ai l'impression qu'on se répète dans ce cas-là.
Mais ça a l'air que les gens semblent avoir les mêmes opinions que moi, c'est tout. C'est juste ça. C'est, les gens sont intelligents. C'est les gens qui nous écoutent.
Tu
là.
Prends juste les gens qui posent des questions qui vont dans le sens de ce que tu penses. Écoute, si c'est pas Weber, c'est Carey Price. Arrête.
Tu iras voir sur mon fil Twitter puis tu vas te rendre compte que cette question-là...
C'est toi qui écris question.
Pas en tout. Je te laisse terminer, Michael.
Ouais, non, mais écoute, tout ça pour dire que moi aussi, j'aimais beaucoup la paire Edmondson-Petrie, puis je pense que on regarde Jeff Petrie dans là, à l'heure où on se parle, c'est compliqué pour lui, c'est difficile. Je pense qu'il est un petit peu affecté du fait d'avoir perdu Edmondson. Mais bon, écoute, Weber, on a fait le tour de la question dans le sens, on le sait que bon, les six meilleures années sont derrière lui, ça va être de plus en plus compliqué. Puis pour la suite, ben, on va espérer pour le Canadien que Petrie retrouve ses esprits et redevienne le défenseur numéro un efficace qu'il était en début de saison, parce qu'en ce moment, c'est difficile.
Moi, ce qui m'agace le plus chez les défenseurs, c'est que je pense pas que Romanov et Mété devraient jouer ensemble. Puis je comprends qu'il y a une histoire de minutes de jeu là-dedans, mais je pense pas que c'est une bonne idée d'avoir ces deux gars-là ensemble. Je pense qu'on pourrait rebrasser la soupe chez les défenseurs et revoir les paires, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera à une autre émission. Lundi, ce sera la date limite des transactions. Donc, nous, on est là mardi. On va pouvoir tout analyser ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. Merci beaucoup d'avoir été là, messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Simon-Olivier Lorange, Michael Lalancette, Jérémy Rainville. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. Merci à Claude Hébert à la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa et on vous donne rendez-vous sans faute mardi prochain. Salut tout le monde.